Et nous y voilà pour cette deuxième émission des Carnets de Comaguerre pour cette belle année 2024. En cette journée exceptionnelle où la France vient de toucher un Premier ministre par surprise, j'allais dire, car personne ne l'attendait, ce héros déguisé dans les couloirs de l'Élysée. Il était déguisé en ministre de l'Éducation nationale. Évidemment, l'habit était trop petit pour lui. Ça débordait, il était à l'étroit. On lui avait mis un modèle de 18 ans et il en avait quand même un peu plus. Bon, tout va lui être trop petit. C'est dommage pour la France que le Premier ministre soit trop petit pour le poste, que le président soit trop petit pour le poste. Donc c'est de ça que la France va devoir guérir en cette année 2014. Voilà les vœux de l'équipe Comaguerre. Meilleure santé à la France. Tu disais, on t'écoute.
2024,
ouais. Oui, ouais. C'est pas ce que j'ai dit. Si, 2024, ouais. Voilà. Ouais. Donc, bonne chance à la France pour 2024. La France est en culotte courte. Alors, je dis d'autant plus facilement que dans ces émissions de Comaguerre, vous savez qu'on regarde beaucoup la politique internationale. Ouais, et je voulais insister sur le fait que, vu de l'étranger, cette espèce d'équipe de copains de l'Élysée qui croient gouverner la France n'est jamais plus prise au sérieux, plus du tout. C'est-à-dire que la nomination d'Attal va faire rire la planète entière. Ça va faire rire tous les pays d'Afrique. Alors, certains sont au gouvernement. Au Niger, on va beaucoup rire. Au Burkina, on va beaucoup rire. Voilà, au Mali, ouais. On va beaucoup rire. En Côte d'Ivoire, on rira. Alors, un peu dans les chaumières, ben, c'est pas Ouattara qui va rire. Parce qu'à mon avis, Ouattara va se dire « Oulala, vite, partons avec nos milliards nous cacher quelque part. » Je sais pas où il va se cacher. Mais il doit se poser ce genre de questions. Et quelques autres aussi du même acabit. Bon, mais ça, c'est l'image de la France tel que les médias français visant la clientèle et leur public national évitent de la présenter. Mais c'est bien comme ça qu'elle est perçue. Donc, en fait, voilà, on a une équipe toute petite, en cours de compte, des gamins qui s'amusent avec un pays de 66 millions d'habitants. Et là, je suis très clair, ils n'ont pas le droit de jouer avec 66 millions de personnes. Ce n'est pas votre jouet, messieurs. Honte à vous pour ce que vous allez en faire et pour ce que vous en avez déjà fait. Mais quelque part, vous savez, je ne sais pas, alors je ne veux pas jouer les prédictions en disant « on est en 1788 », j'en sais rien. Mais il y a toute une série de signes qui s'accumulent montrant qu'effectivement, votre incrédibilité, vous n'êtes pas crédible, et vous le serez de moins en moins, puisqu'en fait, on a un président qui est ministre de tout à la fois. Il est ministre de l'Éducation, il est ministre des Armées, il est ministre des Finances et tout. Évidemment, un jour, il va mourir de fatigue, parce que c'est pas un surhomme. Et donc, voilà cette France, enfin, cette gouvernance française qui est réduite à ça. Alors, on avait eu presque Benalla au pouvoir, ça avait raté. Maintenant, on a une autre forme de Benalla, dans un autre style, un autre genre plus bourgeois, j'allais dire, que Benalla. Mais au fond, c'est la même chose. J'attends le moment où Macron va dire qu'il vienne me chercher. Mais ce moment-là se prépare, monsieur Macron. N'ayez pas de doute. Je vais en prendre une preuve tout à fait locale et qui vous paraîtra très superficielle. Il y avait dimanche une manifestation de soutien au peuple palestinien dans les rues de Marseille. Bon. Et dans cette manifestation, il y avait toute une série de slogans. Ce sont toujours des manifestations, sinon très nombreuses, du moins très très actives. Et il est émergé une nouvelle chanson. Une nouvelle chanson qui commençait par « on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour que vive la Palestine, parce que maintenant on l'assassine. » Voilà. Alors, on est là, c'est le champ de ralliement des Gilets jaunes. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer, c'est la confluence de toutes ces oppositions au macronisme qui vont se rassembler petit à petit pour pousser dehors le macronisme. Comment ça se fera? Quand ça se fera? Qui le fera? Il y aura beaucoup de monde pour le faire. C'est ça qui est en cours de fabrication. Ouais. C'est le rassemblement des oppositions à cette direction inexpérimentée et faible. Ouais. Allez, ça suffit, n'en parlons plus, ouais. On verra. Alors, sur l'actualité internationale, il va se passer beaucoup de choses. Alors, ce que j'annonce pour le faire tout de suite, c'est de dire que demain, donc pour l'émission mensuelle qui se passe donc de 20h à 21h30 sur les ondes de Radio Galère, je tenterai, avec les moyens de mon bord, disons, avec les moyens de l'équipe de Comaguerre, de faire un bilan de ce qui s'est passé en 2023. C'est-à-dire que l'année 2023, pour simplifier, c'est une année de grande transformation, mais c'est des transformations tellement importantes qu'elles ne portent pas leurs fruits en 3 ou 6 mois. Il y a des idées qui sont lancées, des structures qui se mettent en place, et puis finalement, les résultats vont venir petit à petit, au fil des mois, au fil des années, s'accumuler. Hein ? Donc le basculement est commencé. Et puis après, on observe, cas par cas, les transformations qui se passent sur un terrain ou sur un autre. Je vais prendre comme exemple, et il est d'actualité, un exemple de ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique. Alors, la Corne de l'Afrique, c'est très très agité, la Corne de l'Afrique. D'une part, oui. Il y a les Houthis qui bombardent des bateaux qui vont livrer du matériel aux Israéliens. Bon, du coup, ça entraîne une vraie crise du transport international sur l'axe, disons, Asie-Europe, pour faire simple. Une crise qui a fait que... Alors, je vous donne quelques chiffres. Alors, vous n'êtes pas dans le métier des transports, mais je vous donne quelques chiffres pour vous montrer l'ordre de grandeur des augmentations. Pour transporter un conteneur, disons, de Chine à Marseille ou un port européen quelconque, on pouvait payer 1 500 $ la boîte, puisqu'on facture en boîte, hein, pour, qui est, quoi que ce soit qui est dedans, que ce soit des marchandises riches ou pauvres, c'est des t-shirts ou des téléphones portables, c'est le même prix à la boîte. Bon, ça, il faut le savoir, ça fait partie du métier et ça fait partie de la logique du conteneur. On est maintenant autour de ça, entre 5 et 6 000 euros la boîte. 5 et 6 000 euros la boîte. Bon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent envoyer de la marchandise, qui vont être obligés de payer ça, ou bien de s'abstenir. Mais s'ils s'abstiennent, ce qui devait aller dans les magasins européens, que ce soit des t-shirts ou des téléphones portables, n'y arrive pas. Et y arrivera d'autant moins que la plupart des bateaux maintenant des grandes compagnies passent par le cap de Bonne-Espérance, donc font le tour de l'Afrique. Ça met 20 jours de plus. Ça augmente le trajet en gros de 50% en durée. Et donc on en arrive à un moment où il n'y a plus assez de bateaux. Parce que ça tournait sur la base de ce parcours, donc, via le canal de Suez. Quand on rajoute 20 jours de mer, c'est-à-dire un voyage qui augmente de 50%, on manque de bateaux. Bon, et donc, quand on manque de bateaux, ben, il faut payer très cher pour avoir une place sur un bateau.
Et on
donc,
double le prix.
Voilà, donc passage de 1 500 à 5 000, 6 000 euros la boîte. Bon. Alors, vous inquiétez pas. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce que vous allez aller dans les grandes surfaces et on va vous dire « Ah, c'est à cause de l'augmentation des prix des conteneurs et tout ». Alors, n'écoutez jamais ce raisonnement, il est faux. C'est-à-dire que, de toute façon, si vous avez dans un conteneur de 40 pieds 20 tonnes de téléphones portables, hein, eh bien, sur le prix d'un téléphone portable, le transport maritime, même si c'est à 5 000 euros la boîte, c'est rien du tout. C'est même pas 1 euro. Par téléphone portable. Donc, si vous allez chez un vendeur de téléphone portable, je ne fais pas de publicité, et qui vous dit « Ah ben oui, le Apple machin chose, il a augmenté de 20%, c'est à cause des transports », ce n'est pas vrai. C'est parce que Darty ou Fnac profitent de l'occasion pour faire une marge supplémentaire. C'est ça la logique, il n'y en a pas d'autre. C'est la fausse inflation consistant à dire « Ah, tout a augmenté, j'augmente aussi ». Non, non, je prends de la marge parce que les circonstances s'y prêtent. Bon.
C'est ça.
Bien. Alors, je revenais sur la mer Rouge, puisque j'étais parti du détroit de Bab el-Mandeb, pour dire il y a autour beaucoup de monde. Et il se passe quelque chose d'assez étonnant à suivre, c'est-à-dire c'est un espèce de conflit qui, pour l'instant, est feutré et verbal entre une série de pays qui sont là tout autour. Alors, je les nomme dans l'ordre, du nord au sud. On commence par l'Érythrée, on suit par Djibouti, on descend vers la Somalie, et on va un peu vers l'ouest, et on trouve l'Éthiopie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé d'abord que l'Éthiopie, depuis le 1er janvier, est membre des BRICS, ce qui n'est pas le cas des autres. Bon. Mais il se trouve aussi que l'Éthiopie a signé en début d'année ce qu'on appelle une lettre d'intention, même un MOU, comme on dit classiquement, une lettre d'intention avec le gouvernement du Somaliland pour avoir un port dans le Somaliland. Alors, pourquoi cette recherche de l'Éthiopie d'un port? Tout simplement parce que l'Éthiopie n'a pas de port. Son port naturel, c'était Djibouti, mais Djibouti est indépendante. Bon, donc l'Éthiopie n'a pas de port. Elle peut, bien sûr, elle passe par Djibouti. Elle a un train construit par la Chine qui permet d'aller de Djibouti à Addis Abeba. Bon, les transports sont possibles, mais elle n'a pas son port. Bon. Alors, elle aurait pu avoir un port si elle s'était mis d'accord avec l'Érythrée. L'Érythrée a 2 ports sur la mer Rouge, hein, Massab et Assawa, mais il se trouve que les relations entre l'Érythrée et l'Éthiopie sont pas très bonnes parce qu'il y a au nord de l'Éthiopie une région qu'on appelle le Tigré, habitée par des Tigréens, qui ont longtemps occupé le pouvoir à Addis Abeba en attendant d'être renversé, enfin que la place soit prise par le président actuel, Abiy Ahmed, son premier ministre pour être exact. Mais il se trouve que les Tigréens ont toujours fait beaucoup de misère aux Érythréens et qu'en plus, si l'Érythrée aujourd'hui est indépendante, c'est parce que les Tigréens lui ont mené une vie épouvantable. Donc la guerre a eu lieu entre les Tigréens au pouvoir à Addis Abeba et l'Érythrée. L'Érythrée a gagné cette guerre et c'est à cause des Tigréens, on pourrait dire, à cause de leur façon de gérer le pays, que l'Érythrée est devenue, après sa victoire militaire, un pays indépendant qu'elle est toujours. Bon. C'est l'état des choses. Bon. Et l'Érythrée, donc, a de bonnes raisons de continuer à se méfier des Tigréens. Et maintenant, elle commence à se méfier aussi de l'Éthiopie en disant « Écoutez, cherchez un port ailleurs, mais moi, je ne suis pas candidat. » Parce que, en fait, comme si vous passez pour venir chez moi dans mes ports, vous allez passer par le Tigré, il y aura encore des Tigréens dans l'affaire, et moi je me méfie des Tigréens, et elle a de bonnes raisons de le faire. Donc les relations sont mauvaises. La Somalie. Venons-en à la Somalie. C'est là un des nœuds du problème. Alors la Somalie a été gouvernée par un gouvernement extrêmement autoritaire qui s'appelait celui de Siad Barré, et puis après, depuis, elle a éclaté. Sous l'influence d'abord de l'attaque des milices islamiques de Al-Shabaab.
Ouais.
Et puis, voilà. Et puis, ce qui s'est passé en plus, c'est que du fait de l'affaiblissement du gouvernement central à Mogadiscio, il y a deux provinces de la Somalie qui se sont autonomisées. Alors, à des degrés divers, une qui est vraiment autonome, de fait, il y a un gouvernement, une fonction, il y a une armée, il y a des officiers, il y a un état-major et tout, qui s'appelle le Somaliland, qui a donc une vue sur l'entrée de la mer Rouge, sur le golfe d'Aden. Et puis un autre qui est un peu moins avancé dans l'indépendance de fait, qui s'appelle le Puntland, qui est juste dans l'angle, la pointe, la corne de l'Afrique, c'est le Puntland.
Ouais.
Ce qui s'est passé et qui a mis le feu, alors je ne dis pas le feu aux poudres, puisqu'on en est pour l'instant qu'à des échanges de communiqués, à des rencontres, à des tentatives de médiation et tout, c'est qu'en début de l'année, l'Éthiopie a signé un accord avec le Somaliland, le gouvernement qui existe de fait, qui est connu, qui gère le pays, il n'y a pas de doute là-dessus, pour lui dire « je voudrais avoir un port sur le golfe d'Aden, donc sur la Grande Mer ». Et le Somaliland a dit « ok, vous pouvez venir, il y a un port, je suis d'accord pour que vous investissiez dans ce port ». Donc Berbera, le port du Somaliland, va devenir, enfin, au titre de ce document signé entre les deux pays, l'un officiel et reconnu et l'autre pas encore reconnu, mais fonctionnement réellement, c'est un document disant « désormais l'Éthiopie a une ouverture sur la mer ». Alors bien entendu, ça ne plaît pas. Alors ça ne plaît pas d'abord à Mogadiscio. À Mogadiscio, le président de la Somalie actuelle, il dit « attendez, le Somaliland, son indépendance est reconnue par personne ».
Non.
Voilà. Non, non. Donc le papier qui signe pour dire que l'Éthiopie a un libre accès à la mer via le Somaliland, ça n'existe pas. Il n'a pas de poids, il n'a pas de valeur en termes de droit international, puisque le gouvernement reconnu, c'est le mien. Et le Somaliland n'a pas de gouvernement reconnu, et la Somaliland n'est reconnue par personne. C'est vrai. Mais fonctionne. On a ça, une espèce de situation ambiguë qui ne peut pas durer 50 ans, où il y a un État qui fonctionne de facto, ça fait quelques années déjà, et la communauté internationale qui ne veut pas le reconnaître. Donc ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant, c'est une intensification des tensions entre tous ces protagonistes, avec une espèce d'accord entre l'Érythrée, qui se méfie du gouvernement éthiopien, le gouvernement de Mogadiscio, donc le gouvernement officiel de la Somalie, qui se méfie lui aussi et qui maintenant a une raison concrète de se méfier puisque la Somalie voit que l'Éthiopie est en train de lui enlever une de ses provinces. Ben, c'est pas rien, c'est pas tout à fait rien. Et très curieusement, les milices Al-Shabaab qui sont en train de dire on attaque la Somalie en lui en enlevant un morceau, en essayant de lui enlever un morceau, et donc là on va soutenir désormais le gouvernement de Mogadiscio. Ce qui veut dire qu'on aurait une espèce de retournement de la situation, c'est-à-dire les milices islamistes qui poseraient les armes contre le gouvernement officiel de Mogadiscio et qui diraient maintenant l'ennemi principal, c'est l'Éthiopie. Donc on aurait une alliance très très curieuse et inattendue entre l'Érythrée, la Somalie. Les milices islamiques contre l'Éthiopie. C'est une situation très très explosive, ouais. C'est très très compliqué, mais là on est au cœur des contradictions qui vont se multiplier dans ce changement général du panorama dont je parlais en introduction. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une Éthiopie qui vient de rentrer dans les BRICS et qui de fait se sent beaucoup plus forte diplomatiquement et qui commet un premier acte qui est un acte dangereux consistant effectivement à favoriser une sécession dans un pays voisin. Et le pays voisin, il réagit comme il était inévitable qu'il réagisse.
Ils n'ont pas de problème avec l'Égypte et le Soudan aussi.
Alors, ils en ont d'autres, mais c'est moins immédiatement chaud. Là, c'est les développements de ces 15 derniers jours dont je parle. Ouais, mais effectivement, il y en aura d'autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore très précisément, mais il y a déjà des réactions qui méritent d'être notées. C'est-à-dire que la Somalie était sous embargo pour les armements. C'est-à-dire que, en fait, la position des États-Unis, car il faut bien voir que quelque part il y a encore des États-Unis qui sévissent, la position des États-Unis, c'était de dire on souhaite, nous, que les milices islamiques Al-Shabaab renversent le gouvernement de Mogadiscio, ou au moins lui mènent une vie infernale. Mmh. Alors, c'est vrai qu'ils lui ont mené une vie tellement infernale qu'il n'avait même pas le temps de s'occuper des provinces sécessionnistes du Somaliland et du Puntland. Bon. Et ce qui vient de se passer, c'est très inattendu quand on connaît le passé que je viens de vous raconter, c'est que l'embargo sur les armes à destination de la Somalie vient d'être levé. C'est-à-dire que les États-Unis se disent « s'il y a une guerre entre la Somalie et l'Éthiopie, j'envoie des armes en Somalie ». Vous avez compris, hein ? Puisque l'Éthiopie est passée chez les autres, sous-entendu les BRICS, mais encore c'est une analyse enfantine, simpliste. Ouais. Hein. Mais si l'Éthiopie a changé de camp, moi je deviens le grand soutien ferme de la Somalie, alors qu'ils auraient bien aimé que ce gouvernement disparaisse. Hein. Et donc on va voir paradoxalement les États-Unis qui vont dire « Ah mais le Somaliland n'a aucune raison d'être indépendant, c'est très très mauvais ». Vous voyez, donc on a une situation explosive parce que la situation globale a changé, c'est-à-dire que les BRICS ont pris l'initiative de faire rentrer l'Éthiopie dans les BRICS, et en fait les États-Unis disent bah, les facteurs de désordre qu'on avait organisés, on va tout changer, hein, et maintenant on va envoyer des armes pour continuer à mettre le feu pour éviter que l'opération éthiopienne résiste. Alors ça fait peu de cas, j'avais tous ces calculs-là que je fais devant vous, passe sur le vote et l'opinion des populations du Somaliland. Là, ce que pense la population du Somaliland, ça pèse zéro dans ces équations-là. Mais on ne leur demandera pas leur avis. Ce que pense la population de la Somalie, pas beaucoup non plus. On a un jeu qui consiste à essayer d'organiser la transition du régime d'avant la situation politique de 2023 en quelque chose qui sera autre chose fin 2024 ou en 2025. Et c'est le cas qu'on a sous les yeux. Il y en aura certainement beaucoup d'autres dans les mois qui viennent. C'est-à-dire le passage de témoins du monde des BRICS élargi au monde impérial états-unien d'avant se fera pas dans la simplicité et sans douleur, sur fond d'ailleurs d'États-Unis affaiblis, sous fond d'États-Unis en campagne électorale, avec un Biden de plus en plus sénile et qui ne peut plus rien dire d'intéressant, et donc toute une série de gens, dont Trump, mais pas que lui, parce qu'il y a dans le camp démocrate des gens qui sont des pousses au crime aussi, je pense à Blinken et tout. Donc, des États-Unis très instables politiquement, socialement en crise, et qui vont avoir des espèces de gestes de désespoir en disant « on ne va pas lâcher ici, on ne va pas lâcher là » et tout. Tout ça se fait le doigt sur la gâchette. C'est ça qu'il faut voir. Hein, c'est-à-dire, on dit « bon, on lève l'embargo sur les armes », mais ça veut dire qu'on en envoie, s'il en reste. Parce que là aussi, lever l'embargo des armes, c'était facile à dire. C'est facile à dire dans un discours comme ça, c'est une mesure politique. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup d'armes disponibles sur le marché. Et ça, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, puisque la preuve est faite sur le cas ukrainien, que le fait de dire « envoyons tout ce qu'on peut à l'Ukraine », ça ne donne pas grand-chose comme résultat final. D'autant plus qu'il y a des pertes en ligne, comme on dit, il y a des fuites dans les tuyaux considérables. Et donc une bonne partie de ce qui part vers l'Ukraine se circule ensuite dans la nature. On le retrouve un peu partout. Donc tout ça, on le retrouve en Afrique, on en retrouve en Libye, etc. Donc effectivement, les capacités de l'industrie occidentale militaire sont relativement faibles à l'expérience de l'Ukraine étant là pour le démontrer, hein, avec en plus toutes ces pertes. Donc tout ce niveau de corruption extrêmement élevé de toutes ces... J'ose plus prononcer le mot d'élite. Le mot d'élite, il est complètement dévalorisé. Je ne parle même pas de l'Élysée, mais il n'a plus de sens. Hein. Il n'y a pas une qualité mentale, une qualité morale de courage, de rectitude, de respect de la parole. Ça, c'est totalement disparu. Donc, élite, ça veut dire quoi? Oui, ils ont fait de jolis diplômes, ils les ont peut-être même achetés, on ne sait pas quoi. Bon, ce n'est pas très satisfaisant comme terme. Bon, ceux qui gouvernent, hein, ceux qui gouvernent, le temps qu'ils gouvernent, voilà. On ne peut pas dire plus. Voilà, je voulais m'arrêter sur ce cas, donc, de ce conflit, dont on reparlera nécessairement dans les semaines qui viennent, parce que tous les ingrédients sont là, dans cette espèce de poudrière, pour que ça éclate, mais on ne sait pas encore comment. Ceci étant, j'ai essayé de vous présenter les grands acteurs.
Ça gêne énormément Babel Mendel.
Ah oui, ça, oui, bien sûr. Voilà. Ah ben bien sûr. Ah ben oui, parce que le fait que tous les grandes compagnies maritimes ont décidé finalement, alors après, il y en a qui ont dit, mais non, la première excuse, c'est de dire, mais nous, on n'envoie rien en Israël. Et puis, ouais. En fait, d'abord, c'est pas si facile de savoir ce qu'il y a en Israël. Et puis, je regardais des bateaux de la CMA qui ont finalement été détournés. Ouais. Ils allaient faire une escale en Égypte. Alors, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Hein, s'il y avait des containers en grosse quantité à débarquer en Égypte, à Damiet, par exemple, le port sur la Méditerranée, c'était rien du tout. Et les relations entre Israël et l'Égypte ne sont pas si mauvaises que les containers débarqués en Égypte à Damiet puissent le lendemain être à Haïfa. Ouais, ouais. Hein, ne prenons pas les gens pour des imbéciles. Donc, effectivement, ce n'était pas forcément de la marchandise désignée pour Eilat ou pour Haïfa, mais c'est de la marchandise qui pouvait y aller très facilement. Sans compter même la corruption. Hein, sans compter même. Vous avez un conteneur destiné à l'Égypte, il est là, et puis le monsieur qui l'a reçu dit « Oui, moi j'ai un client qui me l'a réclamé, je l'envoie à Haïfa, je l'envoie à Haïfa. » C'est tout, on est dans le commerce. Hein, pas plus. Sans corruption, plus que ça. Donc effectivement, il y a un vrai trouble dans la circulation internationale des conteneurs, ça je l'explique, et il y en a qui se frottent les mains, mais ils ne le disent pas parce qu'ils sont beaux joueurs puis ils connaissent la comédie, c'est-à-dire c'est les gens qui organisent des trains à travers l'Eurasie, entre les usines de Chine et les consommateurs européens. Parce que quand les prix atteignent ces niveaux-là, multipliés par 5 ou 6 du transport d'un conteneur par la voie maritime, à ce moment-là, le trajet par chemin de fer qui prend 15 jours et pas 6 semaines, devient intéressant. Peut-être encore un peu plus cher, mais fiable, c'est fiable. Et ça qui est très très important pour le commerce. C'est-à-dire, vous commandez une marchandise, vous savez que vous l'aurez le temps de chargement, déchargement 3 semaines après, et elle arrive. Et elle arrive là où vous êtes. C'est-à-dire, elle arrive à Lyon, elle arrive à Lisbonne, elle arrive à Francfort, elle arrive en Italie. Tout ça fonctionne. Alors ça, les Chinois sont très sport. Mais ils laissent faire, puisqu'au fond, leur système à eux, et ça, c'est là qu'on voit l'intérêt de la double route de la soie. La route de la soie, c'était la voie maritime et la voie terrestre. Ce qui veut dire que quand il y en a une qui marche moins bien, c'est le cas de la route maritime, l'autre prend la place. Sans compter la voie maritime nord qui sera de mieux en mieux aménagée, puisque maintenant il y a le nombre de brise-glace russe qu'il faut pour que le circuit se fasse par le nord, le long du territoire russe. Donc ça, c'est des bouleversements dans l'économie générale de tout le monde. Ce que je voulais aborder maintenant, c'est ce qui se passe donc en Palestine même, avec toute une série de petits événements, mais qui ont du sens. D'une part, le premier événement, c'est qu'il y a maintenant, depuis la semaine dernière, des manifestations populaires en Israël contre le gouvernement de Netanyahou et sa politique. C'est contre lui et c'est contre la politique qu'il mène, en particulier à Gaza. Alors, l'affaire, en particulier à Gaza, ça a un double sens. Le premier sens, c'est dire, si vous continuez comme ça, les otages israéliens qui sont dans les prisons du Hamas, on ne les reverra jamais. Alors, ça, c'est pas impossible. Ça peut d'ailleurs être même la faute de l'armée israélienne, parce que si par hasard, ils tirent sur l'endroit où les otages sont en prison, les otages mourront. Alors, aussi bien, c'est les Israéliens qui auront tué eux-mêmes leurs propres otages, et on dira, c'est la faute du Hamas.
Ça a été déjà fait.
Voilà, on connaît ce genre de musique. Bon, alors, ça peut être la motivation première d'un certain nombre de manifestants, qui disent, voilà, avec votre politique, les otages, on ne les reverra plus. Bon, et nous, on tient à les revoir, on est attachés, etc. Bon. Mais il y a derrière ça aussi une critique fondamentale de Netanyahou, de son équipe gouvernementale, puisqu'il faut savoir qu'il a mis, je ne sais plus combien de mois, il en était à sa 5e tentative de faire un cabinet, quand il a fini par faire ce cabinet avec l'extrême droite, en pleine connaissance de cause, et donc on avait une situation politique instable, et qui s'était cristallisée sur un moment contre la réforme qu'il voulait faire passer de la Constitution ou des textes constitutionnels, parce qu'il n'y a pas de vraie constitution en Israël, mais des textes constitutionnels qui donnaient encore beaucoup de pouvoir à la Cour suprême, qui était un espèce d'arbitre et qui pouvait à un moment donné arrêter le pouvoir politique quand il faisait de trop grosses erreurs stratégiques. Et c'était ça qui n'était pas dénoué, c'est-à-dire que la guerre a commencé alors que ce conflit-là n'était pas réglé. Et Netanyahu, en montant son gouvernement donc d'extrême droite, pensait qu'il allait éliminer ce problème. Ce problème n'est pas éliminé, il ressort maintenant, il était inévitable qu'il ressortît, comme on dirait joliment, avec des imparfaits du subjonctif, sans en abuser. Bon, il est ressorti. Il est ressorti dans la rue, à Haïfa, à Tel Aviv, à Jérusalem. Et donc, on a cette évolution qui est très très intéressante à suivre. D'une part, il y a en Israël maintenant des intellectuels, on dirait libéraux et de gauche, qui commencent à dire ce qu'ils pensent. Et puis maintenant, il y a un courant de l'opinion qui se ressaisit en disant « on ne voulait déjà pas que Netanyahou arrive au pouvoir, il y est arrivé à l'usure par la force, etc. Mais au fond, mais ce qu'on craignait, ce que ces gens-là craignaient de lui, ils le manifestent d'une façon absolument claire, et donc ils se disent maintenant il faut reprendre l'opposition à Netanyahou. Ce qui donne un éclairage différent à la situation globale. Netanyahou n'est plus si fort qu'il ne le manifeste, même s'il le manifeste non pas sur le dos du peuple israélien, mais sur le dos du peuple palestinien. C'est autre chose. Mais il est plus si fort qu'il le dit. D'où peut-être là aussi, c'est ce que je disais par rapport aux États-Unis, une espèce de saut dans l'horreur, c'est-à-dire acculé, sans perspective claire, avec des soutiens de plus en plus réduits, on se jette dans la bataille, c'est le dernier combat possible, quitte peut-être on en sortira, peut-être on n'en sortira pas. Combat du désespoir. Il y a un désespoir sioniste, je le dis, qui prend corps petit à petit. Alors, on le sent à tous ces petits signes, un désespoir. Le sionisme en tant que projet fait question pour un certain nombre de citoyens israéliens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous prêts à prendre le bateau pour partir.
Il était question quand même de chasser tous les Palestiniens de la Palestine.
Voilà,
ça c'est
tout
sûr.
À fait. Alors, l'unité, elle était là-dessus. Mais au fond, ils se rendent bien compte que ce n'est pas possible parce que, à force d'avoir dit on va éliminer tous les Palestiniens, ben, ça fait 75 ans que ça dure et il y en a encore. Il y en a encore. Hein. Et ben, Dieu sait si les tentatives de les faire disparaître ont été nombreuses. Ben, ils sont encore là. Et même s'il y en a qui, il y a des descendants qui sont partis, il y en a encore qui soutiennent et il y en a encore qui reviendraient si la situation était moins cruelle. Bon.
Il y a même dernièrement, là, hier, je crois, ils ont présenté, le Hamas a présenté des soldats syriens, israéliens, bien sûr, qui demandaient l'arrêt du feu et de libérer des prisonniers militaires israéliens contre ceux qui sont en prison en Israël.
Tout à fait.
Et donc c'est pour renforcer les manifestations qui prennent de l'ampleur d'ailleurs en Israël.
Oui. Alors c'est courant cette opposition à Netanyahou, elle existe aussi dans l'armée. L'armée qui n'est pas habituée à ce qu'il y ait des morts dans ses rangs. Puisque c'était la meilleure armée du monde, etc. Or, quand on est à plusieurs centaines de soldats israéliens morts, et le chiffre est peut-être minoré, l'armée n'est plus invincible. Et elle n'arrive pas à envahir Gaza, à tenir
surtout
Gaza.
Surtout les chars les plus perfectionnés au monde. Et là-dedans, il y a au moins 4-5 soldats. Chaque char, tout à fait.
Et c'est des gens qui ne sont pas formés en 24 heures, en plus. Il y a tout ça. Bon, donc tous ces signes-là sont intéressants, même si ça ne ralentit pas vraiment le processus horrible qui est en cours à Gaza. Hein, on est à 22 000 morts, mais il est estimé que sous les décombres, les morts, c'est ceux qu'on peut compter. Oui. Il y en a encore qui ne sont pas comptés, qui sont dessous. C'est probablement 10 000 de plus.
C'est vrai. Hein. On parle de 30 000. Hein,
voilà. On en est là. Alors, c'est un premier signe, début de fracture dans l'opinion israélienne et dans la société israélienne.
Et ensuite, puis l'économie israélienne aussi, bien sûr,
et puis le fait qu'ils ne reçoivent pas les marchandises par bateau, etc. Tout ça joue. Deuxième signe, les prises de position extrêmement claires du Premier ministre, fut-il par intérim, de M. Mikati, qui est Premier ministre du Liban. Alors pourquoi je dis par intérim ? Parce que vous savez que dans le système d'équilibre des pouvoirs entre les différents courants religieux en Libye, en Liban, bon, c'est assez difficile de mettre en place un gouvernement. Mais l'intérêt, c'est que le Premier ministre doit être un sunnite, et c'est le cas de M. Mikati, alors que le président en exercice toujours est un maronite. Et qu'il y a aussi des ministres chiites.
Il y a le président de l'Assemblée
qui est chiite.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
Donc, dans cet équilibre-là, ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre, qui est donc un sunnite, et qui est de ceux qui auraient pu être un peu faibles vis-à-vis de la pression israélienne. On l'a vu dans des cas précédents avec Rafik Hariri, et puis son fils, etc. Bon, c'est quelquefois le point de faiblesse de l'équipe libanaise, c'est les sunnites qui sont en affaire avec les Saoudiens, sont en affaire avec les Jordaniens, etc. Et ne sont pas trop patriotes. Enfin, ils défendent bien le Liban, mais enfin, quand même, ils ont d'autres intérêts. C'était vrai dans le cas de la dynastie Hariri, où l'argent de Hariri, père et fils, était en Arabie Saoudite.
C'est hein, exact. Bon.
Alors, je note, donc il est très intéressant que le Premier ministre sunnite libanais prenne position de façon très très claire, et il dit « Nous n'accepterons pas qu'Israël attaque le Liban ». Parce qu'on sent bien venir ça dans les annonces de Netanyahou. Alors, c'est assez cocasse à la limite, et même ça fait rire, parce que nous n'accepterons pas qu'Israël attaque le Liban, mais ça veut dire que ça n'a jamais arrêté les attaques contre le Liban. Alors il y a des tentatives d'invasion, hein, ça c'est 2000, la première, etc. Il y a eu des tentatives donc, de deuxième invasion 2006 qui ont été rejetées par le Hezbollah, mais il y a toujours eu des agressions. Quand vous allez en Liban, vous ne savez pas, même si la situation est calme, vous n'avez pas lu de gros titres dans la presse, qu'aussi bien dans la journée où vous êtes là en train de prendre un bain sur le bord de la Méditerranée, il n'y a pas un avion israélien qui va venir bombarder une installation industrielle qui est juste à côté. Ça se passe tout le temps. C'est-à-dire que Israël fait ce qu'il veut dans le ciel libanais.
Alors, et dans le monde, moi je dis. Voilà, il fait ce qu'il veut aussi dans le monde.
Bah, il bombarde pas partout. Hein. Non mais c'est vrai. Mais là c'est flagrant. C'est-à-dire que vous avez un pays qui n'a pas de guerre officielle entre le Liban et Israël. Et en même temps, Israël se permet à n'importe quelle occasion et sous n'importe quel prétexte d'aller bombarder des installations au Liban. Alors maintenant, ils font attention à l'entrée physique avec des soldats et des chars d'assaut. Parce que depuis 2006, ils ont compris qu'il y avait une vraie résistance militaire et que là, la partie était plus délicate. C'est ça qu'entérine M. Mikadi. Il dit non, ça suffit les attaques contre le Liban. Le Liban se défendra. Alors il sait très bien qu'une bonne partie de la défense du Liban, c'est le Hezbollah qui l'assure.
Ils le savent, oui. Sur 120 kilomètres de frontière voilà. Avec Israël.
Ça c'est fait. Et donc, il le sait, mais il l'affirme. C'est-à-dire qu'on a une position extrêmement ferme, ce qui est assez rare dans l'histoire de ce siècle, extrêmement ferme du gouvernement libanais, fut-il par intérim, qui dit « Je ne laisserai pas à nouveau mon pays se faire envahir ». Bon. Alors, le message, on le connaît, mais c'était bien qu'il soit dit avec cette vigueur-là, et c'était bien qu'il soit relayé indirectement par le président, je ne sais pas quel est son titre, de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui, dans sa dernière intervention télévisée, a dit « Pour l'instant, regardez bien la situation, nous avons eu des échanges militaires avec les troupes israéliennes qui sont juste à la limite sur le front, disons sur la ligne entre les deux pays. »
7 kilomètres.
Ouais. Voilà. Mais on n'en est qu'à une riposte graduée à des tirs d'artillerie de la part de l'armée israélienne et tout. Ceci étant, il a bien annoncé très clairement la couleur, ce qui est donc repris à son compte par le Premier ministre. C'est-à-dire, si jamais vous aviez l'idée saugrenue de mettre les pieds militairement sur le sol libanais, là, on changera totalement d'échelle.
Il ne faut pas oublier qu'il a détruit tous les systèmes radars tout le long de la frontière, les caméras. Et plus de 230 000 colons ont été obligés de quitter.
De refluer. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça s'est limité à la zone frontalière.
Ouais, hein. 7 kilomètres environ, voilà.
Et ce qu'a dit Nasrallah, c'est parfaitement clair. Là, on n'en est qu'à une riposte graduée sur la zone frontalière. Si vous décidez de faire l'erreur, parce qu'il le dit clairement, de faire l'erreur de tenter une invasion du Liban, là, on passera à toute autre chose. Et vous serez même, il ajoute, vous serez surpris.
Et d'ailleurs, il est beaucoup plus écouté en Israël qu'au Liban.
Mais bien sûr. Ah oui, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Que ce n'est pas des paroles en l'air, qu'il y a une vraie capacité militaire qui n'a pas cessé de s'améliorer parce qu'ils ne se sont pas arrêtés à leur succès de 2006. Ils sont de plus en plus performants. Voilà, ça c'était pour parler un peu de la Palestine et puis on en reviendra, mais sur ces bases-là, dans des termes qui sont en train de se modifier progressivement. Et puis je vais faire un petit peu d'histoire à l'occasion de faire écho à un débat auquel j'ai assisté hier très précisément à Marseille concernant un autre endroit du monde dont on parle beaucoup moins mais qui est très intéressant à décrire par rapport au comportement de l'impérialisme occidental. Il s'agit de ce qui se passe au large de l'île Maurice. Alors, vous situez à peu près l'île Maurice, pas très très loin de la Réunion française, si j'ose dire. Ouais. Voilà. Et l'île Maurice, donc, est devenue, dans les années 60, un pays indépendant. Elle a été décolonisée par la Grande-Bretagne, elle est devenue indépendante. Et au moment de cette indépendance, la Grande-Bretagne a fait, j'allais dire, on ne peut pas appeler ça autrement, un coup tordu. Comme elle sait le faire, hein. La Grande-Bretagne, quand elle décolonise, laisse toujours des explosifs, des sujets mal réglés, des conflits potentiels pour la suite. Ouais. On l'a vu au moment de l'indépendance de l'Inde. Hein. Nous partons et nous avons organisé et préparé la discorde entre les musulmans et les hindouistes. Hein. Bon. Ça, c'est typique de l'héritage post-colonial de la Grande-Bretagne, laisser du désordre là où on est obligé de s'en aller. On ne va pas laisser un bon souvenir, on s'en va, puis on n'en parle plus, on va laisser un mauvais souvenir, c'est-à-dire qu'on va vous compliquer la vie pour des décennies. Ce qui s'est vérifié en Inde, on va vous compliquer la vie pour des décennies. Alors, à une toute petite échelle, ils l'ont fait pour Maurice. Maurice, il a dit, bon, ça vous êtes indépendant, mais alors il y a une partie qu'on va appeler les territoires de l'océan Indien britannique, qui sont un archipel qui est au nord de l'île Maurice, qu'on appelle l'archipel des Chagos. Un nom que vous n'avez peut-être jamais entendu. Hein? Donc ils avaient, on décolonise mais pas tout. Hein? Et on garde le petit bout, cet archipel alors peu peuplé, de populations qui étaient d'ailleurs des populations d'esclaves qui avaient été amenées là pour cultiver le coco, l'huile de palme, des choses comme ça. Bon, la Grande-Bretagne dit, maintenant ça devient les territoires britanniques de l'océan Indien. Ah bon? Donc c'est une demi-décolonisation. Ça veut dire que ce faisant, la Grande-Bretagne tire la langue à l'ONU. Parce qu'il était bien clair que pour l'ONU, et l'ONU l'a confirmé, la décolonisation, c'était tout. C'est-à-dire la grande île de Maurice et l'archipel des Chagos. Alors pourquoi la Grande-Bretagne fait ça? Bon, elle fait toujours, parce que j'allais dire, les coutumières de cette espèce de cadeau empoisonné, je vous laisse une bombe à la maison ou une épidémie, tant pis pour vous. Hein. Donc je suis un mauvais perdant. Je décolonise, mais j'ai la haine coloniale, elle est restée. Je vous complique la vie aussi longtemps que je le peux. Qu'est-ce qui était le motif de compliquer la vie aux Mauriciens? C'était de dire, les États-Unis ont mis le doigt et ont désigné un des atolls de l'archipel des Chagos pour y faire une base militaire. Cet archipel, cet îlot, cet atoll s'appelle Diego Garcia. C'est un nom que vous avez peut-être entendu. Alors, il a l'avantage, cet atoll, d'être le plus grand de tous les atolls de l'archipel des Chagos, d'avoir une grosse profondeur d'eau, d'avoir une entrée où on peut faire passer y compris un porte-avions et un sous-marin nucléaire, et puis des alentours où on peut faire un aéroport, mettre des bombardiers, etc.
Ça ne doit pas être loin de la Chine, non ?
Alors il est, disons, il est à peu près au sud de la péninsule indienne, enfin, c'est un bon point de contrôle pour l'ensemble de l'activité maritime entre l'Afrique et l'Asie. Et donc, pourquoi les Anglais ont fait ce coup tordu? Tout simplement parce que les États-Unis avaient dit, moi, je veux cet îlot. Je veux cet îlot parce que là, j'ai des projets. Et ça n'avait plus qu'à des projets, puisque donc l'îlot de Diego Garcia est devenu une très grande base militaire américaine. Et elle l'est encore.
J'ai toujours entendu parler.
Elle l'est encore. Elle leur a rendu de grands services. C'est-à-dire que dans les premiers jours, par exemple, de l'attaque de l'Afghanistan, en septembre-octobre 2001, après les attentats de New York, les B-52 qui allaient pilonner l'Afghanistan partaient de Diego Garcia, parce qu'ils étaient à une bonne distance raisonnable. Et puis, ils auraient pu faire ça autre chose, mais là, ils ont vraiment servi, c'est-à-dire que l'armée américaine a démontré que c'était le bon choix, de son point de vue, de s'approprier cet îlot. Alors, cette appropriation s'est faite comment? Eh bien, on est entre amis, entre Anglais et États-Unis. Il y a eu un échange de notes entre le ministère des Affaires étrangères américain, donc le département d'État, et le Foreign Office. C'est tout. on s'envoie un courrier. Bon, j'ai pris ça, j'ai volé ça au Mauricien, je te donne le morceau que tu voulais. Bonjour chez toi.
C'est comme Belfort. Hein,
et, voilà, et dites bonjour à la dame. Mais c'est, on en est là. On a une espèce de copinage. Bon, allez, je t'ai donné le latol, maintenant fais-en ce que tu en veux, je sais ce que tu veux en faire. T'as raison, d'ailleurs, j'approuve tout à fait ta politique. Hein, et puis moi, je me débrouille avec les Mauriciens qui ne sont pas contents.
Les anglo-saxons. Que,
voilà, oui, oui. Voilà, ils sont arrangés entre eux, mais oui, au point de vue du droit international, c'est rien. C'est rien, c'est un échange. On est dans le même esprit que la déclaration Balfour. Oui, on s'écrit, ou la correspondance de Mac Mahon avec les monarques arabes en 1916. Pareil.
Exactement. Hein, ouais.
On est exactement dans la même forme.
Et à Cuba aussi.
Bien sûr.
Un petit...
Pareil. Ben oui, on garde Guantanamo, on ne leur dit pas.
Guantanamo,
vous êtes libre, mais on garde un petit bout. Voilà. Ouais. Bon. Là, alors le résultat, c'est donc aujourd'hui, alors il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire que pourquoi les États-Unis ont réussi à installer leur base dans cet atoll ? Parce que la population, les habitants qu'on appelle les Chagossiens qui y étaient, alors ils n'étaient pas très nombreux, on compte 2-3 000 à peu près. Il y a cet atoll-là et deux autres qui étaient peuplés, les autres îles sont beaucoup plus petites, ont été déportés, j'insiste bien. C'est-à-dire que on leur a poussé avec le pistolet dans le dos, sur la tête, partez d'ici. On leur a rendu la vie impossible sur place.
Ils ont nettoyé, et
ils sont partis. Alors la plupart se sont installés à Maurice même, où on les a heureusement accueillis. Il y en a quelques autres qui sont allés direct en Grande-Bretagne, mais on a eu ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a eu une déportation d'un peuple, de sa terre. Il y était, c'était effectivement des descendants d'esclaves, mais ils étaient installés là, ils menaient une vie apparemment douce dans de bonnes conditions climatiques et tout. Bon, on les a... Alors, c'est un cas extrêmement rare. Alors, c'est tout petit, je dis c'est quelques milliers de personnes, mais ça montre que la diplomatie anglo-saxonne est une diplomatie d'une brutalité humaine totale. C'est-à-dire, déporter 3 000 personnes, c'est rien du tout. Alors, en plus, il faut savoir qu'ils ont été bien accueillis à Maurice, mais bien accueillis, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour les nourrir quand même, donc ils ont pas mal souffert. Il y a encore des descendants, heureusement, de ces populations déportées. Ça remonte aux années 70. Bon. Il n'y en a plus beaucoup. Et ils ont essayé... Alors, il y a quand même eu une réaction des gouvernements mauriciens successifs en disant, mais quand même, ce territoire que les Britanniques nous ont pris, ce n'est pas conforme aux décisions de l'ONU. Hein, c'était une décolonisation incomplète. Et finalement... Et là, je suis content de le dire, parce que autant je peux émettre des réserves sur la Cour internationale de justice quand elles sont méritées, autant là, ça a été très intéressant, parce que la Cour internationale de justice a été saisie par un gouvernement mauricien de cette question de décolonisation incomplète, et la Cour internationale de justice a tranché en disant « Non, non, ce territoire britannique n'est pas britannique, il est mauricien, point ». Ça remonte, alors ça a mis le temps, parce que tout ça est très très long. C'est arrivé en 2019. Hein, les déportations dont je vous parle, elles ont lieu en 70. Hein, bon. Mais depuis 2019, le gouvernement mauricien dit maintenant que j'ai cette décision de la Cour internationale de justice, qui n'est pas, je l'ai expliqué, pas contraignante, mais j'ai le droit pour moi, j'ai le droit de dire, ces îlots sont à l'île Maurice. Point à la ligne, ils sont sous souveraineté mauricienne. Alors là, ça se complique parce que les États-Unis disent, mais alors, comment on va faire ? Parce que là, à la base, ils y tiennent pour beaucoup de raisons. Elle est extrêmement bien placée et il y a d'énormes moyens militaires. Il y a en gros 3 000 hommes des États-Unis sur place. Hein, 1 500 de l'armée, 1 500 civils à peu près. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là que ça va devenir intéressant. Parce que autant on peut imaginer qu'il sera facile pour Maurice de rétablir sa souveraineté sur les autres atolls, comment l'île Maurice, petite, va obliger les États-Unis à s'en aller d'un territoire qu'elle occupe ? Bon, affaire difficile, mais c'est très intéressant à suivre parce que les États-Unis vont résister par tous les moyens dont ils disposent. Et puis, il faut savoir que, dernier point, je vous ai parlé de porte-avions, je vous ai parlé de sous-marins nucléaires, je ne vous ai pas parlé de la nouvelle arme des États-Unis qui est l'arme de l'espace. Il y a un commandement de l'espace des États-Unis qui surveille tout ce qui se passe au-delà de la limite où volent les avions, là où il y a les satellites, etc. Et il y a sur l'île de Diego Garcia des télescopes parmi les plus puissants du monde qui observent le ciel pour les États-Unis d'Amérique. Et il y a comme ça 3 bases seulement dans le monde qui permettent aux États-Unis de tout voir ce qui se passe dans la stratosphère et au-delà. 3, dont Diego Garcia. Vous imaginez qu'ils vont mener une vie de fou aux Mauriciens si les Mauriciens disent « partez ». Mais pourtant, c'est un dossier intéressant. Alors, est-ce qu'il y aura un deal ? Apparemment, il y a une négociation pour qu'il y ait un accord de location à longue durée,
oui,
voilà,
dire, ouais.
Pour que Diego Garcia, que les États-Unis aient un bail de longue durée sur cet atoll. Mais on a là, on voit le poids de... L'héritage impérialiste est extraordinairement lourd à porter, surtout pour un petit pays comme l'île Maurice. Et il faut savoir, bien entendu, je ne le dis pas, mais ça va de soi, que la France et la Grande-Bretagne sont du même avis que les États-Unis sur cette question-là. Bien, ça ne fait pas l'ombre d'un
doute. Ça fait longtemps que voilà. Diego Garcia existe, Bernard. Ça
oui.
fait longtemps.
Oui, oui, puisque, oui, oui tout à fait.
J'ai entendu parler.
C'est
moi.
Des années 70, donc la décision. Ouais. Oui, oui. Puisque l'indépendance de Maurice, c'est 65 ou 66. Hein. Bon, c'est à ce moment-là que les Britanniques disent « Je garde l'archipel pour moi et vous, je vous laisse l'île de Maurice. Hein. »
Ah,
bon.
Ouais.
Donc la trahison, elle a commencé là. Mais la trahison britannique, elle était le résultat de la pression des États-Unis qui disaient « Il nous faut cet atoll » parce qu'ils étaient allés voir. Ils disaient, c'est un endroit génial, merveilleusement placé pour contrôler tout le trafic entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Hein. On peut y faire ce qu'on veut. En plus, on n'a personne qui nous dérange dehors les Chagossiens, hein, à la mer. Hein. Bon, c'était le rêve. Qui... c'est beaucoup moins facile dans des pays comme l'Allemagne ou l'Italie où il y a du monde autour qui voit. Là, il n'y a personne. Il n'y a aucun témoin. Hein. Et il y a un agent britannique qui assure la liaison, mais c'est tout. Donc, on a un petit morceau, un 51e État des États-Unis, quelque part en plein milieu de l'océan Indien, où il n'y a que l'armée.
Oui, et je vois sur Google
dis-nous.
Que en mai 2020, la nouvelle carte de l'ONU fait apparaître l'archipel des Chagos comme faisant partie de l'île Maurice.
L'île Maurice, ça c'est reconnu, c'est la concrétisation du jugement de la Cour internationale
c'est
de justice.
C'est ce qu'il a dit
Bernard. Voilà, c'est tout à fait. Mais vous voyez la longueur du processus, il a fallu 30 ans pour que Maurice arrive à ses fins, plus que ça. Voilà. Et au début, les gouvernements mauriciens avaient peur. Hein, en 65, quand on leur a dit c'est comme ça, ils se sont trouvés le nez sur l'obstacle. Quand les Américains et les Anglais ont jeté les Chagossiens à la mer, ben on les a laissés venir à Maurice, mais on a subi les vêtements. Là, ils ont commencé à se réveiller lentement, parce qu'il y a aussi des Chagossiens qui sont rentrés, qui ont essayé de faire des procès. Ils ont essayé de faire des procès en Angleterre. On a refusé leurs plaintes dans les tribunaux anglais, bien entendu. Il y a un autre procès qui est encore en cours. Bon, mais tout ça a été très lent. Et le fait qu'ils prennent en charge, qu'ils entérinent la décision de la CIJ donc en 2019, montre qu'il y a une grande évolution politique aussi du côté de la direction des gouvernants mauriciens. Et que l'ONU ne peut que se satisfaire, puisqu'au fond, on ne fait que rentrer dans le droit que l'ONU aurait dû faire respecter au début, mais l'ONU n'a pas pu, là comme ailleurs. Hein. On le sait, bon, ne revenons pas là-dessus. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le discours de M. Mikati, le Premier ministre libanais, il donne la liste de toutes les résolutions de l'ONU qui n'ont pas, concernant Israël et les occupations des territoires et tout, qui n'ont pas été respectées. On le savait, mais c'est constant, c'est tout le temps.
Ça ne change rien.
Voilà. Donc l'ONU n'a pas de pouvoir sur Israël jusqu'à nouvel ordre. Peut-être ça pourra changer parce que effectivement il y a de nouveaux rapports de force.
À moins que l'Amérique change.
Voilà. Et puis il y a de nouveaux rapports. Il y a de nouveaux rapports de force qui s'installent. Ouais. Voilà ce que je voulais dire pour Chagos. Donc montrer que l'impérialisme ne lâche jamais.
Exactement.
Ne lâche jamais, y compris pour terroriser un petit État comme l'île Maurice, il n'a pas des moyens de résister. En fait, il a fallu 30 ans, le courage de certains gouvernants, le courage de certains habitants des Chagos qui se sont mobilisés sur la question, parce qu'ils n'ont pas accepté d'être déportés. On vous enlève votre pays, on dit partez, vous n'êtes plus chez vous, et on vous jette à la mer. Ça ne se fait pas. Bon. Et donc, il a fallu ce temps-là, mais le temps de la dignité humaine a été recouvré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Roselyne, effectivement, l'archipel des Chagos est un archipel mauricien.
Ouais.
Alors après, il reste cette énorme épine qu'est l'atoll de Diego Garcia, épine militaire qui sera difficile à arracher. Mais
du côté du Yémen, il y a une île là, qu'ils ont voulu mettre la main dessus aussi.
Socatra. On a des cas comme ça. Ouais. Voilà. C'était là, donc, je voulais... citer ce cas parce qu'il est peu connu et en fait on voit quand même que le droit international peut fonctionner si quelqu'un suit la décision de la Cour internationale de justice. Parce qu'effectivement, il y aurait pu avoir cet arbitrage, la Cour internationale de justice aurait pu dire effectivement l'archipel des Chagos est mauricien. S'il n'y avait pas eu un dirigeant politique mauricien qui dit « bon, maintenant, on va passer aux actes », hein, ils l'ont fait. D'ailleurs, ils ont emmené des Chagossiens sur les autres atolls, pas à Diego Garcia parce qu'ils auraient été passés par les armes, hein, mais pour montrer qu'ils étaient chez eux, qu'ils revenaient chez eux. Et donc il fallait ce courage aussi politique de la direction mauricienne. Et il faut beaucoup de courage quand on est un pays tout petit comme ça, une petite île au milieu de l'océan, pour dire « je ne veux pas céder aux menaces des Anglais et des Américains ». Il faut le faire. Alors il faut sentir aussi, et ça fait partie de l'évolution générale de la situation internationale dont on parle tout le temps, c'est que cette expression-là, elle devient possible quand l'équilibre du monde se modifie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, effectivement, le gouvernement mauricien n'osait rien dire. En période de fin de la guerre froide, ils n'osaient rien dire. Parce qu'en plus, on leur disait « oui, mais si vous faites partir les Anglo-Américains, c'est les Russes qui vont venir ouais. ». Et donc, voilà, cette menace-là fonctionnait toujours, à tous les coups. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les conditions sont plus faciles. On peut s'exprimer sans être rangé dans un camp ou dans un autre et s'exprimer librement sur ses propres intérêts. Dernier, non, il n'y a pas d'autres, si, il y a d'autres sujets, mais je voulais parler aussi de l'agent orange au Vietnam. Alors, vous savez ce que c'est, l'agent orange, hein ? Donc, c'est une forme de la dioxine, le fameux poison, qui a été fabriqué par Monsanto et quelques autres, et qui a été utilisé par l'armée des États-Unis pendant la guerre du Vietnam pour défolier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce qu'ils voyaient, les États-Unis ? Ils voyaient qu'eux, ils avaient beaucoup recours à l'aviation, sous forme d'avions et d'hélicoptères, et que la lutte, la guerre que menait le Vietnam, elle se menait au sol. C'est-à-dire que le Vietnamien voulait conquérir. Voilà. Ouais, exactement. Les Vietnamiens voulaient conquérir, reconquérir leur sol, leur pays. Et les autres étaient surtout prêts à bombarder et pas faire autre chose. Le problème, c'est que le Vietnam étant placé dans l'endroit où il est placé, on a affaire à une végétation tropicale ou tropico-équatoriale. Et donc, en fait, Et donc, en fait, les guérilleros, donc l'armée de libération nationale vietnamienne, elle était à l'abri sous les arbres. Dans la jungle.
Et dans les rizières.
Voilà. Et donc, de l'avion, on ne les voyait pas. Hein. Alors, effectivement, on pouvait, quand on en apercevait quelques-uns, lâcher du napalm en grosse quantité, mais ça ne suffisait pas. Ça suffisait pas. Et donc, la décision a été prise de faire tomber les feuilles. Est-ce bête hein. Puisqu'ils se cachent sous les feuilles des arbres, il n'y a qu'à faire tomber les feuilles. Hein. Alors là, quand vous dites à un chimiste, surtout quand l'armée américaine dit à un chimiste « trouvez-moi un produit qui fait tomber les feuilles des arbres oh », là, il se déchaîne, il y a beaucoup d'argent à la clé, il y a un marché très sûr, c'est le Pentagone qui paye, etc. Hein, et donc le Pentagone lance des appels d'offres, comme il fait. Hein, voilà, je veux un produit qui fasse tomber les feuilles de toute la jungle vietnamienne. Alors, effectivement, ils ont trouvé. Alors, ils n'ont pas allé regarder s'il y avait des dangers de ce produit-là. Ils ont dit « efficacité maximum oh ». Hein, on arrose avec ce produit-là, qu'on a appelé l'agent orange, et tout tombe. Merveille, et ça repousse pas. Bonheur. Alors là, les Américains pouvaient bombarder, ils arrivaient, ils voyaient tout. Le moindre trou avec un combattant vietnamien, ils le voyaient, etc. Et là, allons-y, balançons l'agent orange, et on verra bien ce qui se passe. Alors ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, les Vietnamiens sont tous morts. Mais que ce produit que l'armée américaine a commandé en pleine connaissance de cause, elle n'est pas allée voir est-ce qu'il y a des dangers, est-ce que si, est-ce que ça, sur l'environnement, machin. Non, non, ça fait tomber les feuilles, on ne demande rien d'autre, on est des brutes. Hein. On veut faire tomber les feuilles, on fait tomber les feuilles. Bon, il se trouve que ce produit, est tératogène. Alors, je pense que vous connaissez l'expression. Il engendre des monstres. Il engendre des monstres. Et donc, les mamans vietnamiennes des régions qui ont été le plus bombardées à l'agent orange ont engendré des monstres. On voit dans une vidéo qui a été publiée un petit enfant qui naît sans cerveau, un crâne vide. Hein, c'est ça l'horreur. Hein. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est insupportable à dire. Mais c'est des milliers.
Mais il faut le dire.
Il y a eu 4 millions de morts du fait de l'agent orange. Ouais. Et puis, ça passe d'une génération à l'autre. C'est-à-dire, une maman qui a été contaminée aura des enfants. Et ces enfants eux-mêmes pourront produire des enfants mal formés. Ouais. Hein. Donc on ne sait pas comment ça s'arrêtera.
On l'a vu, on l'a vu aussi en Irak.
Voilà. Si ce n'est, alors, si ce n'est à interdire aux personnes et aux femmes qui vivent dans ces régions-là, on vous interdit d'avoir des enfants. C'est ça la situation. Ah, c'est ça la situation. Donc je voulais insister là-dessus parce que la guerre, quand on... Alors après, on va vous dire les armes chimiques, ci et là et tout. Ça, c'était la pire des armes chimiques. Ouais, parce qu'on ne tuait pas les vivants, on tuait des générations à venir. Hein, et ceux, on allait rendre... Enfin, tous ces enfants mal formés, c'est épouvantable. Et à voir, et puis après, ils sont vivants quand même. Donc il faut des structures pour les soutenir, les nourrir, les habiller, etc. Hein, et il faut voir ce que c'est qu'une famille qui a un enfant comme ça. Pour des dizaines d'années à soutenir. C'était avec toujours se dire, c'est la guerre, merci Donald, enfin merci les Américains, voilà mon gosse, regardez comment il est mon gosse. Hein. Vous avez gagné quoi? Vous avez perdu la guerre, en plus. Hein. Voilà. Alors vous êtes bien avancé. Bon. Réflexion sur la guerre en général et sur ces modes impérialistes de la mener. Dernière chose que je voulais dire sur le Vietnam, qui est assez important à savoir, c'est qu'une fois la défaite réalisé. 75, l'armée américaine se retire du Vietnam. Bon, on le sait. Mais l'armée américaine, pour les Américains, elle s'est retirée du Vietnam, comme elle s'est retirée de Kaboul il y a 2 ans.
Hein. Oui, oui.
Elle n'a pas perdu la guerre. Les Américains ne perdent jamais la guerre. Et donc, pour punir, comme ils sont retirés en disant, mais comme ils nous ont fait du mal, les Vietnamiens, on va les punir. De 75 à 94, 20 ans d'embargo. 20 ans d'embargo. Ce qui voulait dire rien n'arrive, c'est-à-dire on est mort de faim dans les rues de Ho Chi Minh Ville et dans les rues du Nord Vietnam. On est mort de faim. On a pu mourir de faim. Ça a été très très difficile. Et tout d'un coup, finalement, Clinton arrive en disant bon, maintenant l'URSS elle s'est écroulée, on peut un peu détendre l'atmosphère. Et il dit allez, levez de l'embargo. Alors, sourire, effectivement, le Vietnam va mieux depuis que l'embargo a été levé.
Mais
ça s'appelle la flèche du Part. Ça s'appelle, c'est-à-dire que les États-Unis, pas plus à Chagos qu'ailleurs, ne lâchent la prise. C'est-à-dire que dans les conditions secrètes à la levée de l'embargo, il y a un article qui dit le Vietnam s'engage à n'engager aucune poursuite judiciaire contre les États-Unis et son armée. Ce qui veut dire tout ce que nous vous avons fait, l'agent Orange, tout le reste, etc., vous ne pouvez engager aucune poursuite contre les... Voilà. Ça fait partie des dispositions secrètes. Elles y sont. Et c'est ça qui a permis la levée de l'embargo. Le gouvernement vietnamien, il le savait, il a signé. Il a signé parce qu'il faut qu'on est en train de mourir de soif et de faim. Donc il a signé quand même. Et quand des victimes, des familles qui ont des enfants difformes, condamnés à survivre dans des conditions qu'on imagine, ils sont obligés de créer une association pour porter plainte contre le gouvernement des États-Unis. Le gouvernement vietnamien ne peut pas, puisqu'il a accepté de ne faire aucune poursuite. Donc c'est intéressant d'entendre ce que j'ai eu l'occasion de faire, des témoignages de ces personnes qui poursuivent l'armée américaine pour ces faits-là, et qui sont obligées de le faire toutes seules dans une association indépendante. Bon, c'est très important à savoir, pour bien comprendre la complexité, et pour bien comprendre, surtout, j'insiste sur le fait que l'impérialisme n'a jamais honte de ce qu'il a fait. Et il continue toujours à faire tout ce qu'il peut pour être affreux et pour dominer les autres. C'est ça la leçon qu'on retire de tous ces événements-là.
Oui, et l'impérialisme, lui, ne se gêne pas pour ne pas respecter les traités.
Ah ben bien entendu.
C'est les autres qui doivent les respecter.
C'est les autres, bien sûr, c'est les autres. Voilà, tout à fait. Bien, alors, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je regarde parce que l'heure passe. On va finir tranquillement là-dessus. Sur la question des rapports entre l'Inde et la Russie, qui est importante pour suivre les événements qui vont se passer cette année maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Ça fait partie du basculement et ça introduit un peu à l'émission de demain soir. C'est-à-dire qu'il s'est tenu un G20 en Inde, organisé par l'Inde, où la Chine et la Russie ne sont pas venus. Enfin, il y a eu des représentants, mais il n'y a eu ni le président russe, ni le président chinois. Alors, ça pouvait être simplement une question d'emploi du temps. C'était beaucoup plus profond que ça. L'Inde est en train de se positionner, je l'explique, comme le porte-parole du Grand Sud, de tous les pays ex-colonisés et tout, par rapport à l'Alliance occidentale, donc le G7, l'OTAN, etc. On connaît ce groupement-là, puisque la France...
Du Sud global ?
Voilà, c'est un peu le Sud global. Mais il faut bien préciser de quoi on parle. Donc il y a d'un côté cette Alliance occidentale, G7, OTAN, qu'on connaît. Ça va se poursuivre à Davos la semaine prochaine, on en reparlera. Et puis il y a l'Alliance Chine-Russie, qui est officielle, qui est claire, qui fonctionne, etc. Et il faut trouver une place pour les autres. C'est-à-dire que c'est ni dans l'Alliance Chine-Russie, ni dans l'alliance, même plus du G7. Donc l'Inde, c'est en train de se positionner en tant que porte-parole de tous les autres, de tous les nouveaux décolonisés, de tous les petits Africains, l'île Maurice, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a eu une rencontre récemment entre le Premier ministre indien et le Premier ministre du Mozambique, par exemple. Bon, c'est inattendu, mais en fait, l'Inde prend un rôle particulier en dehors de ces deux grandes alliances. Et ça, c'est la forme que prendra en 2024 la multipolarité. C'est-à-dire, il y aura le pôle G7, il y aura le pôle Chine-Russie qui maintenant fonctionne et est bien installé, et puis il y aura aussi ce pôle que l'Inde essaie de rassembler. Tout ça se fait alors que les uns et les autres sont tous au BRICS. Bon, mais c'est pas les mêmes, et en plus, c'est très difficile, on l'a compris, de faire fonctionner en permanence l'Inde et la Chine, parce qu'il y a quand même une espèce de concurrence entre les deux puissances asiatiques. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où, paraît-il, à quelques unités près, la population de l'Inde a dépassé celle de la Chine, on a dit, ça y est, l'Inde devient dominante. Elle devient dominante, mais enfin, le fait de dépasser en nombre, c'est pas forcément un signe que tous les Indiens on a mangé tous les jours. C'est là-dessus que je voulais un peu m'insister, parce que c'est pas exactement le cas. Et la situation sociale, en particulier de la paysannerie indienne, est loin d'être équivalente de celle qu'elle est en Chine. Donc, mais là, on sait qu'on a un rapport difficile. Et quand la presse occidentale, il y avait encore une couverture du Point la semaine dernière, c'est l'année où l'Inde émerge. Alors on aimerait bien qu'elle émerge, mais qu'elle reste dans le camp occidental. Alors ça, je crois que c'est perdu, hein, mais l'Inde fait son chemin comme étant un des leaders, un des porte-voix du Grand Sud, comme on dit, mais de tous ces pays-là, en dehors des deux gros blocs qui, eux, sont déjà bien constitués, bien installés. Et puis les BRICS arrivent là, au-dedans, pour encore ouvrir d'autres pistes. Donc l'année 2024 va être compliquée, mais passionnante. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, c'est vrai.
Et on en reparlera très très facilement, d'abord demain soir. Donc...
Bon,
oui, vas-y, dis.
Non, on n'a pas le temps parce que la résistance irakienne actuellement ça, c'est
intervient vrai, beaucoup, voilà.
Intervient
oui.
énormément,
rapproche-toi,
aussi bien en Syrie
tout à fait.
Qu'en Irak, et même ils ont envoyé des fusées balistiques à Haïfa.
Tout à fait.
Il ne faut pas oublier, voilà. Là, dernièrement. Donc, ça bouge aussi voilà. Du côté
alors,
des...
Effectivement, on a le sentiment, à travers ce que tu dis, que l'Irak est en train de terminer, enfin, d'essayer d'en terminer avec l'occupation des États-Unis qui existe encore, même si les effectifs sont beaucoup plus petits qu'ils n'ont été à une période, mais il y a encore une présence militaire importante et surtout très organisée et une surveillance...
D'ailleurs, il y a un truc où j'aimerais... C'est surtout le Kurdistan irakien... où les Américains, ils ont installé une base.
Tout à fait.
Et ça va être très, très compliqué.
Très, très
et chaud,
compliqué.
D'ailleurs.
Voilà. Hein. Ah, puisque le Kurdistan est toujours un problème au sein de l'Irak. Et pas qu'au sein de l'Irak, c'est vrai aussi. C'est vrai en Syrie, c'est vrai partout. Voilà, on ne fera pas d'émission sur les Kurdes à l'heure actuelle. On dira aussi quelques mots la semaine prochaine sur les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, parce qu'il y a beaucoup de données qui sortent maintenant. Et puis on se retrouve donc demain soir et mardi prochain pour les actualités courantes. Merci beaucoup Roselyne.
Merci.
Ça va être compliqué cette année. Hein.
Oui. C'est une...